Alors on y va ensemble. Voilà cette première diapo qui va situer un peu le sujet voilà, du jour. Il y a deux diapos comme ça, vous allez voir la différence qu'il y aura. C'est les disciples de la première heure, et tout à l'heure on parlera des disciples, on parlera tout à l'heure des disciples de la dernière heure. Hein, notez la nuance, première heure lorsque Jésus les a lancés, et dernière heure on pourrait dire de Jésus. Hein, dernière heure, on est encore nous dans cette dernière heure, ok ? Allez, on y va. Donc ça nous permet de situer un petit peu ce sujet. Ce sujet est assez vaste et intéressant. Et cette première diapo, mais je voudrais faire maintenant une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, chapitre 10, verset 1er, pardon, à 4. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres, donc disciples apôtres. Élèves et apôtres envoyés, qui seront envoyés sur l'ordre de Jésus. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Amen. Un autre texte, Matthieu 9, voilà, il est question précisément là de Matthieu Lévi. De là étant allé plus loin, Jésus vit un disciple assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu et lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Amen. C'est étonnant de voir comment Jésus s'y prend. D'une parole, les gens se mettent à le suivre. Vous vous rendez compte ? Lorsqu'il dit à ses disciples, et ça a été vérifié plusieurs fois, lorsque Jésus leur dit « Toi, viens, suis-moi », oui, il s'est passé quelque chose, comme on pourrait dire un déclic, si vous le percevez mieux comme cela, un déclic qui les a mis en route. Et comme il a été dit des disciples, oui, entre eux, de se dire « viens et vois ». Et ça a été le moment clé qui a ouvert la perspective de voir Jésus, de suivre Jésus, d'être dans le pas de Jésus. Et c'est quand même merveilleux. Merci Seigneur. Alors regardez cette diapo. Vous avez là un petit peu le dessin des 12 disciples. Hein, la première, voilà, suis-moi. Donc il dit à ces 12 personnages. 12 personnages, on n'aurait pas le temps de s'y attarder ce matin sur le caractère, sur la vie de chacun, ce qu'il a été, ce qu'il a pu devenir avec la grâce de Jésus. Mais lorsque Jésus leur a tendu cette main, c'est cet appel, ce regard qui a déterminé le cours de leur existence, qui leur a donné de vivre la différence et de suivre celui qui les a appelés. Se sentir appelé, se sentir concerné, se sentir touché de l'amour de Jésus, de celui qui appelle encore au jour d'aujourd'hui. Une autre diapo, vous notez la nuance. Disciples de la dernière heure. Jésus a exercé son ministère 3 ans et demi. Et puis, au bout de tout cela, Jésus devait mourir à la croix. Jésus devait mourir à la croix et lorsqu'il est mort, il s'avère qu'on a vu des personnes de dernière minute prendre une part qu'ils n'avaient pas prise jusqu'alors. Souvenez-vous, et on va relire le texte, regardez dans Jean chapitre 19, verset 38, pardon. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe, d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes et les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, dans le jardin un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Alléluia. Nous avons là ces deux personnages. Vous avez noté cette autre diapo où on pourrait se dire « Qui sont ces disciples ?» Vas-y, José. Voilà, la suivante. Voilà, qui sont ces disciples ? Joseph d'Arimathée et Nicodème. Nous avons ces deux personnages. Savez-vous que il y a 13 fois dans les évangiles où nous trouvons que Jésus s'adresse à des gens afin de les inviter à le suivre. Jésus a pu marquer, ces 13 fois ont marqué la vie de personnes, toute leur existence. Et lorsque les disciples ont suivi Jésus, ça a été déterminant dans leur vie. Parce que même plus tard, quand ils vont voir Jésus montant sur la montagne de la transfiguration, ils vont le voir en gloire. Et c'est un élément marquant parce que Pierre en parlera plus tard dans son épître. Et il dira, ayant vu sa majesté de nos yeux. Et cet appel leur étant adressé, a déterminé toute leur vie. Nous avons ces deux noms. Il y a ces disciples, cette autre diapo, qui nous parle de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, il nous est dit, il était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. On a chanté tout à l'heure. Il nous a libérés de la peur. Et là, ça a été l'expérience de Joseph d'Arimathée. Il est venu, il était disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Qu'est-ce qu'on pouvait penser? Il avait peur des Juifs. Et quand vous regardez que Jésus, lorsque Jésus est mort, et que les disciples se retrouvent entre eux, il nous est dit, vous avez un texte comme ça, il dit que les disciples se retrouvent entre eux, ils ont peur par crainte des Juifs. Jésus va venir, s'étant approché, leur dit quoi? La paix soit avec vous. Amen, le shalom. Alléluia. Et donc, mais si Seigneur, oui, ça a été bon pour eux, quand même, cette présence rassurante. Il peut y avoir des craintes illégitimes. Il peut y avoir des peurs illégitimes. Mais voyez-vous, Joseph d'Arimathée, découvrez-le comme ce personnage qui jusqu'alors, il était comme cela, était disciple de Jésus, mais en secret et par crainte des Juifs, va quand même franchir une autre limite. C'est il va aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus qui était crucifié. Jésus était mort. Joseph d'Arimathée, il a eu le courage que personne n'a eu pour aller demander le corps de Jésus. Vous vous rendez compte? Il est sorti de son ombre. On va y revenir tout à l'heure. C'est merveilleux de voir cela, de voir, oui, Jean qui parle en termes précisant des disciples non déclarés de Jésus. Disciples que Joseph, il risqua sa réputation, voire sa vie en demandant officiellement le corps de Jésus. Il se présente sous un jour favorable que jusqu'alors. Il est capable de vivre cette différence et merci Seigneur. Je crois que Jésus est capable de faire son œuvre. Il y a des choses qui se vivent en secret et quand on a ce secret d'aimer Jésus en secret, de venir à l'église peut-être en secret. On n'est pas dans un pays persécuté, mais aujourd'hui, si on devait nous renvoyer l'image, peut-être que ça peut mettre des personnes mal à l'aise. En secret, la crainte des Juifs. Oui, parce qu'il y en avait des Juifs qui avaient dit que s'ils se déclaraient pour Jésus, ils étaient exclus de la synagogue. Vous vous rendez compte? C'était une perte de rang social, c'était une perte de valeur, de crédit. Donc, il y avait la crainte des Juifs qui était légitime, qui se comprend d'une certaine manière. Et puis, cette autre diapo, vous avez Nicodème. Nicodème, lui qui était venu de nuit pour voir Jésus. Il était venu de nuit et il y avait eu un rapport assez intéressant avec Jésus. Il avait dit à Jésus, mais personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais j'ai une question à te poser. L'homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Et il lui a dit, mais si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Pourtant, Jésus parle là quand même à un homme qui est un érudit, qui est versé dans les Écritures, un homme qui a une connaissance, un homme religieux authentique. Et Jésus lui dit, tout cela, c'est pas ça qui va te sauver. c'est pas une étiquette religieuse qui va te sauver. C'est Jésus, celui qui est la porte, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui ouvre l'accès, c'est lui qui nous permet cette main tendue. Lorsqu'il nous saisit, nous permet d'entrer. Nicodème, il a changé d'approche. Nicodème a pu venir. Il a pu venir et dans ce jardin, sépulcre neuf, on voit que tout a été remis au Seigneur pour le bien et pour que Jésus puisse être embaumé. Jésus puisse être mis dans ce sépulcre neuf. C'est beau de voir ces changements et ces prises de position. Comme disent certains, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Et c'est vrai que nous avons vraiment besoin de reconnaître ce duo inattendu. Le Seigneur savait bien. Le Seigneur, parfois, sait qu'on peut se prononcer pour lui, peut-être plus tardivement qu'on aurait pensé. Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le redire parce que je vais me répéter. Mais ma grand-mère m'avait dit, t'es bien le seul, j'aurais cru que t'allais te convertir. Ouais, merci mamie quand même. Puis en plus de devenir serviteur, alors c'est sûr qu'il y a des choses qui sont comme ça inattendues. De voir que d'un coup, d'un seul, c'est la parole de Jésus qui change le cours de notre vie. Jésus était quelqu'un pour nous quelqu'un d'inconnu, celui qu'on mettait de côté. Et puis, il s'avère que ses paroles nous touchent, ses paroles nous font du bien, ses paroles nous intéressent et nous interpellent. Oui, c'est tellement intéressant de voir ce qui se passe dans les cœurs. Cette grâce de Dieu qui n'est pas vaine, elle opère dans le secret des cœurs. Et si aujourd'hui on a peut-être du mal à confesser le nom de Jésus, peut-être à la famille, peut-être autour de nous, dans le voisinage, sur le lieu de travail, on n'est pas là pour pointer du doigt. Mais on sait qu'un jour viendra où les choses deviendront évidentes. Il n'y a pas à avoir de crainte, pas à avoir peur. Et puis si on vous tuait à cause du témoignage de Jésus, c'est pas grave. Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, je dis bien ça. Parce que ça arrive que des chrétiens soient persécutés, soient tués pour le nom de Jésus. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a aussi l'index mondial, de porte ouverte, qui nous montre un peu cette réalité des chrétiens persécutés par tout le monde. Donc, la vie chrétienne n'est pas jalonnée de pétales de roses. Vous n'avez peut-être pas vu de pétales de roses ce matin en arrivant, mais c'est la réalité. Mais je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il t'aime. Je sais que son amour dure et a toujours. Ces deux-là, Joseph d'Arimathée et Nicodème, vont faire équipe. Alors, ils le font alors que Jésus est mort. On pourrait dire c'est trop tard, mais non, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Et d'une certaine manière, et désintéressés, au risque de perdre leur réputation, leur rang, ils se prononcent comme étant disciples de Jésus. C'est quand même intéressant de savoir qui est les disciples de la première heure. Mais nous sommes dans cette dernière heure encore. Ça fait 2000 ans que ça dure. On pourrait parler par là de l'ère de l'Église, du temps qui est donné. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu appelle, le Seigneur encore appelle à passer des ténèbres à son admirable lumière. Sais-tu que Jésus te cherche ? Peut-être que si tu en doutes, on peut prier pour que cette nuit tu sois réveillé, droit et bien comme un piquet pour que tu puisses reconnaître que Jésus est vivant au siècle des siècles. Amen. Il est capable de tout, le Seigneur. Capable de nous donner d'en prendre conscience. C'est pas ce que je peux vous dire. Le plus important, bien que c'est de la parole de Dieu, mais lorsque le Maître s'adresse à nous, lorsqu'il nous parle, merci Seigneur. Alors oui, disciple de la dernière heure, une autre diapo se pose dans notre parcours ce matin. Et toi, es-tu un disciple de Jésus? Les disciples de la dernière heure. Disciples de Jésus-Christ. Chrétiens, vous savez, on en a parlé récemment sur l'étude, donc l'enregistrement se retrouvera, mais le terme de chrétien est un petit peu trop vague, bien qu'on reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Lorsque le terme de disciple est un petit peu plus rare, chrétien, tout le monde peut le porter. Oui, je suis chrétien, je suis pas musulman. Oui, d'accord, oui, c'est une certaine manière de voir. Mais plus précisément, on peut dire, chrétien, c'est être un disciple de Jésus. celui qui suit son enseignement, sa parole. Jésus nous a demandé d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Il nous demande aussi de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et il dit aussi, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus nous envoie à faire quoi ? Faire des baptêmes. C'est bien de faire des baptêmes. Et merci Seigneur. Mais ce qui résulte du baptême, c'est d'être disciple de Jésus. Un disciple de Jésus. Peut-on prendre le baptême sans être disciple de Jésus ? Ben non, normalement, non. Et on doit s'y opposer. S'il n'y a pas une suite logique d'une décision d'appartenir au Seigneur, c'est pas une étiquette ou un diplôme, c'est pas une disposition qui va changer les choses dans notre vie, mais c'est cette appartenance de cœur au Seigneur. Es-tu disciple de Jésus ? Crois-tu au Seigneur Jésus ? Es-tu sauvé ? As-tu accepté que Jésus pardonne tous tes péchés ? As-tu accepté que Dieu ait envoyé Jésus sur cette terre pour te montrer, te prouver et qu'il t'aime tellement qu'il veut te pardonner, faire toute chose nouvelle, te permettre de vivre une vie nouvelle, de pas être porté par les circonstances, par la colère, par les difficultés, par les épreuves, par la maladie, mais d'être porté par Jésus qui nous aide et nous rend plus que vainqueurs. Oui, par son amour. Alors voyez-vous, être un vrai disciple, c'est encore possible de nos jours. Il est tard à l'horloge de ce monde, mais il n'est pas trop tard. Il est tard, c'est vrai. La dernière heure est vraiment sur la fin de son cadran. Il est très tard. Il est important de se dépêcher pour se donner au Seigneur. Il est important de pouvoir rendre réponse à son appel. De dire, Seigneur, tu m'appelles. Oui, je le crois. Je le crois, ton amour. Oui, si Noé, le prédicateur de la justice, paraîtrait un bon discoureur, nous savons qu'il paraissait pour être, eh bien, ce discoureur d'époque, mais quand même, quelques-uns furent sauvés de la noyade, mais aussi des remords et de la perdition. Cette famille, 8 personnes, ont été sauvées par cette arche. Ce bateau qui a été construit pour préparer le pire. Oui, parce qu'en Jésus, Dieu a préparé le pire. Jésus, c'est l'arche de notre salut, c'est lui qui nous sauve. Il est temps de prendre une décision, il est temps de réagir à tant d'amour et tant de grâce. Vas-tu monter dans le bateau ou vas-tu rester à terre ? Vas-tu monter dans l'arche du salut ou vas-tu rester à te poser des questions, à réfléchir, à voir si l'eau s'assurboit, si tout est bien confectionné et si ça garantit ton salut? Oui, ça serait l'entreprise humaine, on pourrait en douter. Mais venant de Jésus qui s'est donné lui-même, il ouvre l'accès. Et vous savez que la porte de l'arche, elle a été refermée. Sinon, c'était la noyade, hein, on est d'accord. On ne peut pas rouler et puis naviguer avec un bateau qui prendrait l'eau. Mais c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Donc quand Dieu dit « c'est terminé », c'est terminé. Réalises-tu que le Seigneur a encore une main tendue vers toi ? Jésus n'a-t-il pas dit « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alléluia. Jésus donne encore la possibilité au jour d'aujourd'hui de vivre. Es-tu un disciple de Jésus ? Tu te plais autour de ses paroles, de rassemblements comme celui-là, mais as-tu donné ta vie de répondre à son appel, de dire « Oui Seigneur, je crois que ton amour n'est pas que pour les miens, les nôtres, pour ceux qui me sont proches, mais il est aussi pour moi. » C'est bon de pouvoir le vivre, croyez pas ? C'est si bon de pouvoir, d'en prendre conscience. Alors, on peut, autour de cette diapo-là, on peut se poser des questions. Qui sont ces disciples qui vivent constamment dans la peur ? Par peur des Juifs. Ça vous est arrivé d'avoir peur ? Qu'on pense de vous ? Qu'on pense de vous certaines choses ? Ah, moi, tu sais, je suis chrétien, hein ? Quand j'ai dû rendre témoignage, quand je quittais le monde séculier pour rentrer dans le ministère et en formation, j'ai dit, Seigneur, quand même, il y a quasiment que des jeunes dans l'entreprise. Je vais leur dire, pas de problème, je vais y aller. Mais ils vont se moquer de moi, fais-moi grâce. J'ai dit, je vais prendre cher. C'est compliqué quand même quand t'as 120, 130 à l'époque. Au début, il y avait quasiment que quelques jeunes. Et à la fin, il y avait quasiment que des jeunes. Et puis quand le patron me voyait, « Ah, le pasteur conférencier !» Moi, conférencier, encore moins. Mais c'était difficile. C'était de rendre témoignage, c'était une belle occasion et je lui ai envoyé un email au patron pour qu'il puisse le renvoyer par le réseau intranet à tous les ordinateurs. Et en même temps, tout le monde a reçu le même mail, je l'ai envoyé, j'étais au bureau, je faisais mine de travailler et puis j'ai un collègue qui pivote avec sa chaise, il me regarde, ah, ah toi. Puis j'en ai une autre qui vient de l'autre bureau, qui vient là et puis qui est émue, qui a les yeux baignés de larmes. Elle me dit, ah, t'es chrétien, je savais, mais oh, c'est beau ce que tu vas faire. Et je pars dans le magasin parce qu'il y avait un peu à faire et je suis rejoint par des collègues. Elle dit, tu vas devenir pasteur, toi. Et vous voyez, j'ai eu des opportunités, j'ai parlé comme ça. Alors je dis pas, on a fait des... Mais néanmoins, j'ai pu annoncer que, eh bien, le Seigneur fait grâce. Étonnant pour quand même quelqu'un qui était au départ timide. Vous croyez pas là, hein ? Non, vous croyez pas. Mais j'étais terrorisé, j'étais un grand timide. Et puis, de la peur à l'assurance. Vous vous rendez compte ? Lorsque Jésus donne de l'assurance, c'est merveilleux quand même. Lorsque nous sommes peut-être poltrons, nous sommes affaiblis, nous sommes en difficulté, on en peut avoir peur des religieux, on peut avoir peur de ce qu'on pense, on peut avoir peur de pas se sentir parfait, on peut avoir peur de ne pas réussir ou pas se sentir à la hauteur, on peut avoir peur de perdre une certaine réputation. Mais quand tu sais que Jésus t'aime et t'a sauvé, alors peu importe, parce que si on regarde à charge de valeur, c'est pas la même valeur dont on parle. C'est pas la même valeur. Jésus, ce sera toujours lui qui sera à tes côtés, même jusqu'au dernier moment, au dernier souffle, et même pour l'éternité, il sera là. Alors, faut pas passer à côté, mais faut saisir. Es-tu un disciple de Jésus ? Qui sont ces disciples qui restent dans l'ombre ? Nicodème, il est resté dans l'ombre. Joseph d'Arimathée était resté dans l'ombre. Mais on peut dire de l'ombre à la lumière. Alléluia. Oui, la parabole des vierges aussi, l'ombre de l'indécision, l'ombre des autres, l'ombre de l'assoupissement. On peut se cacher, on peut avoir peur, mais Jésus n'en reste pas moins présent. Il est là pour toi. Et ce qui paraît être caché, éteint, eh bien ce qui nous effraie ne l'arrête pas, lui, pour autant, pour venir encore vers nous ce matin. Jésus est toujours là. Qui sont ces disciples qui sont ignorants de ce que Jésus prépare ? Ils sont ignorants de savoir que Jésus vient bientôt. Ils vivent comme si, eh bien, tout pouvait rouler encore et longtemps comme cela, alors que la Bible dit qu'on doit être sur nos gardes, prêt à partir. C'est bon, tu laisses ta voiture ? C'est bon, tu laisses la maison ? Tu laisses la garde-robe ? Prêt ? On est sur nos gardes. Oui, mais Seigneur, je dois faire ça. On y va ou on n'y va pas ? On est sur nos gardes, frères et sœurs. C'est quand le retour de Jésus va venir, croyez-moi, ça ne va pas faire de détails. Il n'y aura pas une mise en situation. Non, non, il n'y aura pas de préparation. Ça sera le go directement. Oh, mais Seigneur, tu pourrais nous préparer quand même. Hey, ça fait 2000 ans qu'on doit se préparer quand même. Qui sont ces disciples ? De l'ignorant à la connaissance. Qui sont ces disciples qui ne réussissent pas ? On peut réussir que ce que nous tentons. On ne réussit pas comme Jésus le voudrait. On a du mal et on est en panne et en difficulté et on a besoin de dépendre de Jésus, de l'échec à la réussite. Qui sont ces disciples qui ne sont jamais contents ? Non, ça vous arrive ça ? Ah, on touche un point sensible. Bon, faites comme si j'avais rien dit, et puis avalez quand même la pilule, d'accord ? Qui sont ces disciples qui ne sont jamais contents ? Connaître celui qui désaltère. Il peut y avoir l'entêtement, on peut passer aussi, et merci Seigneur, du mécontentement au contentement. Alléluia ! Merci Seigneur. Oui, parce qu'on peut avoir des peurs, des frustrations, des blocages. Mais Seigneur, avant tout, tu es mon excellence. Tu es mon bonheur. Tu es ma richesse, Seigneur. Oui, même si j'ai des frustrations, des déceptions, j'apprends à dépendre de toi pour m'en relever, pour repartir, Seigneur Jésus. Alléluia. Allez, on continue. Es-tu un disciple de Jésus ? Il faut savoir que ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur ou je ne sais, qui appelle les disciples, c'est Jésus. Lorsque Jésus te tend la main, lorsque Jésus s'adresse à toi, crois-moi que tu le sais, crois-moi que tu t'en rends compte. Et je prie, ma prière c'est ça, c'est qu'on se sente concerné et qu'il y ait de ce passage du Saint-Esprit qui nous aide à réaliser. Nous avons tous, à un moment donné, tous à répondre à l'appel de Jésus. D'une manière ou d'une autre, en tant que disciple, mais aussi en tant que serviteur, on a tous un appel. L'appel à devenir disciple et plus tard l'appel à devenir serviteur pour certains. Mais en tout et pour tout, il y a un appel. Il y a une réponse qui est tienne. Alléluia. Et ça, c'est beau de se rappeler de tout cela. Oui, il nous adresse son appel. C'est nous parler. Jésus n'est pas vivant. On ne l'entend pas parler au jour d'aujourd'hui, on ne l'entend pas. Et pourtant, il pourrait s'adresser à nous audiblement. Alléluia. Il pourrait encore faire son œuvre. Oui, celui qui appelle, celui qui est capable de répondre présent lorsqu'on lui adresse un appel au secours. Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Moi, j'y connais rien. Mais il paraît que tu réponds à la prière, alors je te prie. Et là, c'est suffisant pour que Jésus puisse répondre à la prière. Merci Seigneur quand même. Hein ? Qui est Jésus ? Ah, c'est vrai que la définition n'est pas la même selon les individus, mais c'est bien quand Jésus nous l'explique lui-même, lorsqu'il y a une révélation de Jésus. Hein, vous savez que souvent, dans le milieu de l'islam, souvent ce qui parle aux gens qui sont musulmans, c'est pas un débat théologique. Souvent, c'est une révélation de Christ qui vient les aider. Il y a ce déclic parce que Jésus, ils ont vu Jésus. Il y a eu une marque, il y a eu un attouchement particulier, précisément, qui fait qu'en fait, il y a eu quelque chose qui les laisse pas indifférents. Merci Seigneur. Jésus lui-même a commencé à parler, à enseigner. Il était ce prédicateur itinérant. Et il n'a jamais eu de maison, ni de femme, ni d'enfant. Et pourtant, il a cheminé, il allait de lieu en lieu pour guérir, faire le bien, parce que Dieu était avec lui. Merci Seigneur. Et lorsque la parole de Jésus s'adresse à nous, c'est merveilleux de voir ce qu'il a toujours fait depuis toujours. Il est là depuis toujours. Il est auprès de Dieu depuis là. Avant même la création, la parole qui a été faite chair. Qui est la parole ? La parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole, oui, nous a été donnée. Il s'est adressé à l'humanité. Il a pris la parole pour dire « Me voici, ô Dieu ». Je donne ma vie pour pouvoir aimer et me sacrifier à ta place pour pardonner tes péchés, t'ouvrir la vie éternelle. Ah, merci Seigneur. Plus tard, Jean-Baptiste avait aussi conscience que, alors que Jean-Baptiste était né 6 mois avant Jésus, et lorsque Jésus est venu, il a réalisé que Jésus était bien avant lui parce qu'il est éternel. Il a réalisé qu'il était différent. La naissance de Jésus, Marie, une femme vierge, a mis au monde Jésus qui était conçu par le Saint-Esprit, Luc 1, 35. Et il lui fallait donner le nom de Jésus, l'Éternel sauve. L'enfance de Jésus nous montre aussi qu'il a été identifié, il a communu, et à l'âge de 12 ans, il s'est rendu au temple de Jérusalem, Luc 2, 40. Et la famille est repartie sans avoir fait attention à lui, et lui était resté dans le temple pendant 3 jours pour écouter, poser des questions aux enseignants. Et ils étaient frappés par sa compréhension et les réponses qu'il donnait. Mon sauveur, il s'appelle Jésus. Il connaît toutes choses. le ministère public de Jésus, qui a commencé lorsque, oui, il a été dit par Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Il a exercé son ministère à l'âge d'environ 30 ans. Il commença à faire de grands miracles, donner cet enseignement qui saisissait l'attention des personnes, relever des choses, des situations, le Messie attendu. Oui, celui qui était préparé, qui préparait le peuple, a été identifié, reconnu. Et nous pouvons définir même ces souffrances dans Isaïe 53 qui ont été données 700 ans avant que Jésus ne vienne, ne naisse, étaient données et nous trouvons en lui la possibilité de devenir enfant de Dieu. Amen. Une autre diapo. Comment devenir disciple de Jésus? Le devenir et le rester. Pourquoi suivre Jésus? Parce qu'il est le seul. Le seul nom, le seul chemin, la seule porte, le seul sauveur, le seul nom qui nous réconcilie avec Dieu et les hommes. Oui, et merci Seigneur, c'est le seul. Pourquoi suivre Jésus? Qu'a-t-il de spécial? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru, nous avons connu, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Merci Seigneur. Oui, pour sa grâce. Jésus appelle à le suivre. Il veut être le sauveur de ton âme. Il veut être celui qui a payé. Il est capable de te regarder droit dans les yeux et te dire « Je t'aime d'un amour éternel ». Il est capable aussi de te dire « Je veux être ton Seigneur ». Oui, celui qui est le propriétaire. Si tu t'occupes de croire en moi, je m'occuperai de défendre ta cause, de défendre tes situations, tes problèmes, tes besoins. Oui, devant le Père. Oui, Jésus, le Christ qui est envoyé, celui qui est l'envoyé de Dieu pour lui faire confiance. Voyez-vous, lorsque nous dessinons un petit peu tous ces contours, nous comprenons que cette invitation est normale. Elle est une suite logique. Parce que Jésus ne parle pas pour parler, mais il parle parce qu'il t'aime. Parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Et oui, d'être dans la dernière heure, de se dire, c'est vrai que si je regarde ma montre, il ne reste pas grand temps. Et c'est important de pouvoir dire, Seigneur, il faut aussi que je fasse partie de ce salut, je fasse partie de cette réalité qui est là. Entends-tu son appel? Entends-tu que Jésus s'adresse à toi? N'endurcis pas ton cœur. Ne souhaite pas que nous vivions séparés, ça lui déchirerait le cœur. Savoir que volontairement, délibérément, tu dirais non. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que tu dises non? Il a plutôt tout fait pour que tu puisses dire oui. Oui, d'accepter l'invitation. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se repente, qu'il change de conduite et qu'il change de vie. Donc c'est important de pouvoir encore réaliser ce que Jésus veut pour chacune de nos vies. Oui, de comment devenir un disciple de Jésus? Reconnaître que par le salaire du péché, c'est la mort. Et que sans son intervention, nous sommes perdus. Nous n'avons pas de solution, nous n'avons aucun recours. C'est comme si vous étiez devant le juge et vous ne pouvez même pas faire appel, vous n'avez même pas un dossier suffisamment lourd pour évoquer votre plaidoirie. Et vous n'avez personne qui défende votre cause. Jésus devient pour nous un avocat. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Nous avons auprès du Père Jésus un avocat. Celui qui nous réconcilie avec le Père. Amen. Savoir reconnaître ses torts. Des fois, ça peut être problématique. Hein, mais quand on admet qu'on a péché, et que le péché est horrible, et qu'on n'a aucun moyen de s'en débarrasser, et qu'on n'a aucun moyen de pouvoir plaire à Dieu, alors oui, simplement, laisse-lui ce privilège que tu reconnaisses. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. Se repentir, changer, faire demi-tour, ne plus vivre de la même manière. Changer, regretter sincèrement, oui, les choses, et lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres pour moi une voie nouvelle, une route nouvelle. J'ai besoin que tu fasses quelque chose que moi je ne pourrais pas, je risquerais de me tromper, de perdre l'itinéraire. Mais j'ai besoin de te suivre. Et le Seigneur est capable de nous accueillir. Alléluia. Les résultats de son appel, oui, nous sommes précieux à ses yeux. Hein. Jamais, alors je vous cite ce texte, jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a pu n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses. Pour ceux qui se confient en lui, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies se souviennent de toi. Ésaïe 64, verset 3. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Le bon choix, le meilleur de tous les choix, c'est d'avoir Jésus pour bon berger, Jésus pour guide, Jésus pour sauveur. Alléluia. Et merci Seigneur. Et vous savez que, on disait tout à l'heure, les disciples ont été appelés la première fois où ils ont été appelés chrétiens. Hein, vous retrouvez ça dans Actes 17. Alors, pour vous, ça change pas grand chose. Entre disciples chrétiens, c'est la même chose. Mais les disciples étaient appelés des chrétiens parce qu'il faut savoir que ça a été à Antioche. Et Antioche était une ville cosmopolite, et cette ville était là et il y avait beaucoup, il y avait le choc des cultures. Donc à cette époque-là, on avait pris au départ les chrétiens comme une secte juive. Mais ça devenait un petit peu ambigu parce que il y avait des Grecs, des païens, il y avait des Juifs. Et ces non-juifs et les juifs, et dans tout cela, il n'y avait pas de correspondance, on pourrait dire. Et donc, l'arrivée de Paul et de Barnabas, c'est qu'à un moment donné, le terme Christianos, je vais y arriver, au départ, ça parlait d'un sobriquet. Oui, c'était une sorte d'ironie pour les habitants d'Antioche. Ah, voilà les chrétiens, les Christianos. Et en grec latin, eh bien, ça parlait de ces partisans. Les partisans, en fait, les chrétiens, les gens qui disent en gros, regardez ces gens qui parlent de leur Christ. On dirait ces esclaves. Hein, et en fait, ils disaient, c'était de la bande à Jésus, en fait. C'était un peu ce qu'ils en disaient quelque part. Et donc, il n'y avait pas de terme qui pouvait être mieux défini que dire c'est des chrétiens. Christ, chrétien, et merci Seigneur pour un tel terme, parce qu'en les appelant chrétiens, eh bien, ils ont en fait mis une étiquette, mais les chrétiens, les disciples, ils l'ont porté avec distinction, ils l'ont porté avec honneur, parce que si au fond les gens ne savent pas quoi dire de toi, et à te voir, à te regarder dans ta manière de vivre, et ils disent, ben lui c'est un chrétien, et ben là on a gagné. On a gagné la partie. On a gagné l'approche qui était digne de plaire à notre maître. Amen. Oui, c'est vrai que certains, parfois, mettent un petit poisson derrière leur voiture pour dire « je suis chrétien ». Mais bon, il y a des feux rouges, il y a des dérapages, il y a des problèmes, il y a des bouchons, il y a des inconvénients quand même sur la route. Hein ? Toi. Et il va descendre, il va venir à ta vitre, il va dire, dis, j'ai vu que t'as un poisson derrière ta voiture, ça voudrait pas dire que t'es chrétien? Et là, vous avez pris, je pense, la claque ou la leçon de la journée. Et là, vous dites, oui, j'ai tout gagné. Donc, du coup, vaut mieux pas mettre de poisson derrière la voiture. Eh, moi, j'en suis un peu là. Mais ceci dit, si on met pas de poisson derrière la voiture, ça veut dire que on peut en vendre au comptoir de publication. Non, je dirais par là, c'est que des fois, on a peut-être du mal à afficher la couleur. Oui, mais s'il y avait un défaut dans ma conduite, parce qu'on ne sait jamais, il y a un feu rouge qui arrive, je n'avais pas anticipé. Puis que tu piles net, celui qui arrive derrière t'embrasse tellement qu'il t'aime. Donc on a besoin d'être de ses disciples, de ses chrétiens, et que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Amen. Allez, je termine. Un nouveau nom. Une autre diapo, comment devenir disciple et le rester. Quelques caractéristiques que vous connaissez pour la plupart. C'est d'étudier la Bible. Hein, ma femme disait un jour, elle m'a arrêté là, elle me disait, mais en fait dans la Bible, c'est pas écrit, lis la Bible. Parce qu'on était sur le marché, on faisait des écriteaux flash. Et si on mettait, lis la Bible, c'était pas vrai. C'est méditer la parole de Dieu. C'est ça en fait. Alors, bien sûr, on le comprend, il faut lire les Saintes Écritures. Mais méditer, c'est important d'étudier la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me parler ? Hein, d'accepter l'invitation, de prendre une décision, oui, pour dire, Seigneur, je médite et je crois en tes paroles. De pouvoir encore, oui, reconnaître toute sa fidélité à notre endroit. et de dire, Seigneur, on compte sur ta fidélité, sur toute ta bonté. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, nous avons besoin de prier. La prière est importante. Elle construit notre relation, notre approche de Dieu, hein, du temps dans la prière. On s'attache aussi à l'assemblée locale. Oui, l'Église te reconnaît-elle comme engagée ? Acte 2, 41, on raconte qu'un jour, 3000 personnes se sont ajoutées au nombre des 120. Ah, là, il y a des problèmes logistiques, là. Hein ? Là, il fallait passer peut-être à faire autre chose et autrement. Donc, certainement plus nombreux, hein, plus nombreux après qu'au départ. Donc, pour les encadrer, oui, la Bible ne prévoit pas qu'on soit isolé, un peu comme Robinson Crusoe, de vivre sa foi tout seul, mais de vivre, oui, pour se rapprocher les uns des autres, grandir comme Jésus, d'aimer les autres comme Jésus. Alléluia. Allez, on termine par un verset, enfin quelques versets. Marc 8, 34. Voilà. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Amen. Ça nous donne encore à réfléchir. Donc que Jésus nous bénisse. Hein, j'en profite pour dire, on a commencé cette étude aussi à revenir un petit peu sur ça, revenir à ces éléments de la vie du disciple. On a déjà commencé. Vous le verrez passer dans les infos tout à l'heure. Mais le disciple en formation, on a parlé du disciple, on a parlé de définition et d'identité la fois précédente. Cette semaine, donc vendredi, on parlera des points d'étape de la croissance du disciple. Le caractère du disciple, bon, il est affiché dans la thématique, mais on l'a déjà vu un petit peu avec le fruit de l'esprit, le comportement du disciple. On parlera, on abordera aussi les habitudes, les difficultés, les réactions, les ressources, les relations et l'équipement aussi du disciple. Donc que Dieu nous bénisse autour de sa parole, qu'il fasse de nous de ses disciples, qui glorifie son nom. Amen. Voulez-vous qu'on se lève et on termine par la prière ? Alléluia, merci Seigneur. Disciples de la première heure, disciples de la dernière heure, nous réalisons Seigneur que c'est ton appel qui nous rassemble. C'est ta parole qui nous interpelle. Te remercions pour les nouvelles personnes. Te remercions pour ceux qui viennent, qui reviennent. Te remercions pour les habitués, Seigneur, ceux qui viennent régulièrement. Te rendons grâce, Seigneur, de ton œuvre à notre endroit. Et nous prions que tu te plaises, oui, à faire de nous ces disciples, ces gens de ta maison, de ceux qui se préparent ici-bas et de ceux qui, oui, qui sont de ta patrie, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Merci, merci, Seigneur, de te plaire. Appelle, interpelle, cherche encore inlassablement. Nous te prions, Seigneur, de rendre évident cet appel, peut-être mis de côté par peur, par crainte. Oui, Seigneur, nous te prions de faire encore du bien. Tu es merveilleux dans toutes tes œuvres. Merci d'avoir été patient avec nous, de l'être encore. Oui, Seigneur, ta patience est notre salut. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'honorons dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.